Lizzie présente L'autre rive du Bosphore de Teresa Revet. Lue par Florine Orphelin. À mon frère Paul, à Pierre M. In memoriam. Première partie. Stamboul, novembre 1918. La maison avait été fouillée de fond en comble, les dizaines de pièces passées au peigne fin, même l'aile réservée aux hommes, sans oublier les cachettes préférées d'Ahmet au jardin. Rien à faire, son fils restait introuvable. Leïla porta les mains à sa poitrine, comme pour empêcher son cœur de s'en échapper. Le treillage serré de fines lattes en bois masquant ses fenêtres tamisait la luminosité blafarde des matins de brouillard et d'embrun. Au-delà du mur d'enceinte qui protégeait sa demeure, elle devinait la ville prisonnière de ses lueurs d'opale où se fondaient les pointes des minarets et les silhouettes évanescentes errant parmi le dédale du vieux Stamboul. On s'y égarait tout aussi aisément en plein jour, par un soleil radieux. « Ahmet, mon petit, où es-tu ?» Sa gorge était sèche, ses tempes douloureuses. Son angoisse n'était pas infondée. Elle naissait de cette ville fébrile, soumise à des incendies ravageurs et des tremblements de terre que n'épargnait ni une nature indocile, ni la rapacité des hommes. Une cité à nul autre pareille, convoitée depuis des siècles, jusqu'à aujourd'hui même. Et c'était bien ce qui l'effrayait tout particulièrement. Un frisson la parcourut et sa vieille servante lui recouvrit aussitôt les épaules d'un châle. Deux femmes la contemplaient debout, le visage blême. Des domestiques qui avaient failli à leur tâche. « Nous sommes désolés, Leïla Hanim, » murmura d'une voix éplorée l'ancienne nourrice d'Ahmet qui veillait désormais sur sa sœur, la petite Périane, de 2 ans sa cadette. Leïla leva une main pour couper court au Jérémiade. Elle devait réfléchir. Elle ne doutait pas une seconde que son fils s'était échappé pour aller voir les bâtiments de guerre des Alliés qui venaient de jeter l'ancre dans le Bosphore. Tout Stamboul bruissait d'indignation depuis l'intrusion de ces infidèles anglais, français, italiens et même grecs. L'humiliation suprême. Mais les Ottomans avaient perdu la guerre. L'armistice avait été signé avec les Anglais le 30 octobre. Il avait fallu de longues années pour conclure cette grande guerre. Or, les Turcs, eux, se battaient depuis bien plus longtemps encore. À contempler les réfugiés accueillis dans les cours des mosquées depuis qu'elle était enfant, ses familles chassées des marges d'un empire en déliquescence, il semblait à Leïla que son peuple n'en finissait pas de souffrir. « Je dois aller à sa recherche, » déclara-t-elle en se levant. « Vous, Leïla Hanim ?» s'exclama sa fidèle Feridée. « Il n'a que 7 ans et je suis sa mère. » Tandis qu'elle se dirigeait vers la pièce d'eau, on s'empressa de rouler les couvertures en soie et le matelas étendu chaque soir sur le tapis en guise de lit. Une servante l'aspergea d'eau fraîche avant de lui frotter vigoureusement le corps et de tresser ses cheveux. Des pensées folles agitaient Leïla, qui cherchait à se rassurer. Ahmet était impulsif, tout le contraire de son père, mais intelligent et autonome. Il ne parlerait pas à des étrangers et ne suivrait pas un inconnu dans la rue. Une fois sa curiosité satisfaite, il reviendrait à la maison. Mais trouverait-il son chemin ? La ville était un labyrinthe. Bien qu'elle y fût née, Leïla la connaissait mal. Elle s'y aventurait rarement et jamais seule. Les femmes comme elle, éduquées à la maison puis mariées jeunes, régnaient sur un univers clos de murs. L'extérieur présentait à leurs yeux un double visage, attirant et redoutable. Un sentiment d'impuissance la saisit à la pensée de son petit garçon lâché dans ce monde hostile dont elle ignorait les usages. Elle sentait palpiter autour d'elle la capitale traversée par les dangereux courants du Bosphore, une ville fiévreuse et cosmopolite, avec ses populations disparates, parlant toutes les langues, ses quartiers francs de l'autre côté de la Corne d'Or, où même le temps était décompté autrement. Une ville de toutes les ruptures, sur le point d'être envahie par des milliers de soldats étrangers. Elle serra les lèvres. Pas question de trahir son désarroi. Dès que Leïla fut habillée, on l'enroula dans des voiles de soie noire. La jupe lui arrivait aux chevilles, la pèlerine dissimulait ses cheveux et retombait jusqu'à sa taille. Pour la première fois, elle eut l'impression que son manteau, son tcharchaf, se transformait en armure. Qui doit vous accompagner ? Leila anime, sans qui faire idée, désolée de ne plus avoir l'âge de se déplacer rapidement. Aucune importance. S'il le faut, j'irai seule. Seule ? S'étrangla la vieille femme, et ses doigts tremblèrent tandis qu'elle aidait sa maîtresse à épingler le voile sombre qui lui dissimulerait le visage. Le plus important, c'est de retrouver Ahmet, non ? Leila s'élança hors de sa chambre, suivie de ses servantes marmonnant conseils et prières. Il leur fallait conjurer le mauvais sort, détourner les esprits malins qui s'étaient introduits dans la maisonnée pour s'emparer du jeune maître. Il était tôt, la demeure dormait encore. Une bénédiction, se dit Leila, en pensant à sa belle-mère, et elle adressa une prière fervente à Dieu, que son nom soit loué, pour qu'on retrouvât son fils avant que Gulbahar anime et vende la mésaventure. Dans la pièce dévolue aux enfants, la petite Périane dormait sur le dos, les poings fermés de chaque côté du visage. Leila se pencha pour lui caresser tendrement la joue. À même le sol, parmi le fouillis des couvertures qui composaient le lit d'Ahmet, elle remarqua une forme suspecte, mais ce n'était qu'un oreiller habilement plié. L'enfant avait donné le change pour tromper la vigilance de son entourage. Et il lui avait été facile de s'échapper par le portail du Konak, la grande résidence en bois qui demeurait toujours ouvert pour accueillir des mendiants désireux de se reposer dans le jardin. Cesse de pleurnicher ! Ordonna-t-elle à la jeune fille chargée de veiller sur Ahmet. Mon fils a été habile. Il t'a joué un mauvais tour. Quand je l'aurai retrouvé, je lui demanderai de s'excuser auprès de toi. Elle tourna les talons, franchit la galerie donnant sur l'une des cours intérieures de la maison et dévala l'escalier de chêne. Dans le vestibule, elle se heurta à la haute stature d'Ali Aga, l'eunuque éthiopien de sa belle-mère, qui se dressait devant elle, sanglé dans sa redingote noire, le regard tranchant sous son fez. Il s'appuyait sur une canne, la cheville bandée. « Hanim Effendi, où allez-vous comme cela ? J'ai demandé au cocher de sortir chercher le petit, et nous allons prévenir le maître. » Tu sais bien que le palais l'a fait appeler à l'aube, il n'aura pas le temps de s'en occuper. Ahmet ne peut pas être loin. Le ton de sa voix était résolu, mais elle abaissa son voile pour dissimuler un visage où ses yeux sombres trahissaient son anxiété. Les rues n'étaient pas sûres. Voilà des mois que des réfugiés affluaient de partout, d'Anatolie orientale comme de Thrace, de Russie ou de Grèce. Certains quartiers étaient livrés à des bandes organisées qui trafiquaient au marché noir. De jeunes servantes s'approchèrent, leurs pantoufles brodées glissant sans bruit sur le sol de marbre. Les tenues noires d'Ali Aga et de Leila dessinaient des ombres insolites parmi leurs tuniques de velours pourpre ou bleu, tissées de fils d'argent. L'eunuque restait silencieux, l'air contrarié, maudissant autant son entorse que les événements qui échappaient à son contrôle. Il appartenait à la vieille école, celle du sérail, avec ses règles de conduite, ses convenances et ses femmes protégées des influences extérieures. Il avait suivi sa maîtresse Gulbahar Anim lorsque l'esclave circassienne avait été donnée en mariage par le sultan à un pacha et lui vouait une dévotion sans faille depuis près de 40 ans. Même si les deux complices dirigeaient la maisonnée d'une main ferme, ni l'un ni l'autre ne pouvait empêcher les détestables manies occidentales de saper leur autorité. Leila profita de son hésitation pour s'échapper dans le jardin. Des écharpes de brume drapaient les platanes et les pierres rongées par la mousse de la vieille fontaine byzantine. Lorsqu'elle franchit le portail, un coup de vent plaqua le tcharchaf contre son corps. Située sur les hauteurs de la colline, la demeure dominait les ruelles tortueuses, l'enchevêtrement de terrasses, de coupoles et de maisons en bois noircies par le temps, parmi lequel s'élançaient les cyprès et les minarets. Non loin de là, l'incendie du printemps dernier avait ravagé des centaines de maisons jusqu'à la mer de Marmara, ne laissant qu'un champ de ruines. Son inquiétude était aiguillonnée par l'exaltation d'être seule. La jeune femme veilla à ne pas déraper sur les pavés ronds comme des galets et luisants d'humidité. Elle était persuadée qu'Ahmet s'était dirigé vers un lieu familier. Mais lequel ? Dans la venelle où s'étageaient les épiceries, les affaires se traitaient en pleine rue. Les clients se plaignaient de la pénurie de sucre, du pain infâme qui n'était qu'un mélange de paille hachée et de mauvaise farine. On continuait à manquer de boulgour. Quand le ravitaillement serait-il à nouveau digne de ce nom ? Sur une petite place près de la fontaine, des femmes voilées discutaient d'un ton animé. Leila leur demanda si elles n'avaient pas vu Ahmet, le fils de Selim Bey. Elles la réprimandèrent d'un air sévère, s'étonnant que l'enfant ait pu s'échapper de la maison. On craignait le pire, ne le savait-elle pas ? Certains prétendaient que les Africains des troupes françaises embrochaient les enfants pour les manger.